Cap Sport. Cap Sport. Cap Sport. Cap Sport. Cap Sport.
C'est à Cuba pour les amoureux du noblard. La boxe est menacée d'exclusion du programme olympique en 2020 à Tokyo. Et pourtant, ce sport figurait déjà au programme des Jeux de l'Antiquité. Ancien commentateur TV, spécialiste de cyclisme et de boxe aussi, Bertrand Dubout défend la cause d'un sport de combat traditionnel à la popularité toutefois déficiente. Mathieu Schaffner, lui, est notre envoyé spécial à Saint-Moritz dans le cadre de la Coupe du Monde féminine de ski alpin où se tient un Super-G demain et un slalom parallèle dimanche. Et en dernière partie d'émission, nous nous penchons sur le cyclocross en marge des championnats romands qui ont lieu samedi à Porrentruy, une manière de pratiquer le cyclisme qui se perd et réservé à une poignée de résistants passionnés.
Cap Sport, Marcel Neuenschwander.
Bonsoir, le Comité international olympique n'a pas encore pris sa décision définitive, mais elle devrait tomber ces jours et la menace est toujours pendante. Le CIO exclura la boxe du programme des Jeux olympiques de 2020 à Tokyo au cas où Gafur Hakimov, président à l'intérim, serait élu à la tête de la Fédération internationale de boxe amateur. Cet homme d'affaires ouzbek de 67 ans serait un criminel majeur de son pays, selon le Trésor américain. Nous nous arrêterons là pour les accusations. Bertrand Dubout, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes ancien commentateur TV, passionné de cyclisme et aussi de boxe, hein, bien sûr. Qu'est-ce que cette menace d'exclusion vous inspire? C'est un coup bas pour un sport qui n'a pas toujours bonne presse auprès du grand public.
Un coup bas peut-être pas, parce qu'on s'y attendait quand même. Mais ça fait quand même des années que l'AIBA, l'Agence mondiale amateur, la Fédération mondiale amateur de boxe, est aux prises avec des accusations, avec de la magouille, avec de la corruption, etc. On a vu aux Jeux Olympiques, ces dernières décennies, des verdicts qui étaient des verdicts scandaleux. Moi, je connais un certain nombre parce que j'ai commenté pas mal de tournois olympiques. Et donc, il y avait même ces soupçons d'actes criminels de la part de certains des responsables. Le Coréen Wu, qui était l'ancien président, qui a été révoqué à fin 2017, a laissé un trou de 10 millions de dollars parce que il s'est lancé dans des investissements un peu irresponsables. Il voulait faire de l'AIBA, la fédération amateur mondiale, une fédération professionnelle mondiale. Évidemment, ça n'a pas marché. Et donc, il a laissé un trou, il s'est fait virer. Et Rakimov a comblé ce trou. Mais évidemment, on se pose la question d'où vient cet argent. Donc, des accusations, les Américains qui rentrent dans la danse. Pour la boxe, ce n'est pas très bon, évidemment, parce qu'aux Jeux Olympiques, c'est l'image de marque. C'est le rendez-vous quadriennal, on peut dire. Il y a les championnats du monde, les championnats d'Europe, mais les Jeux Olympiques, ça donne une aura, encore une amplitude supplémentaire à la boxe amateur. C'est le point de passage pour une carrière professionnelle. Donc, je ne sais pas si c'est catastrophique, parce qu'il restera quand même encore les championnats d'Europe et les championnats du monde. Mais disons qu'au niveau de l'image de marque, la boxe en prend un sale coup, là.
Bertrand Dubout, justement, l'AIBA, hein, cette fédération internationale amateur, compte quand même, on a regardé, plus de 200 fédérations nationales affiliées. Elle a quand même un certain poids, une certaine solidité. Elle manque vraiment de crédibilité, oui. C'est ça qui est dommage.
Oui, elle a un gros poids, elle a un immense poids. C'est un peu comme la FIFA pour le football. Il y a des confédérations continentales, il y a des fédérations nationales, etc. Donc c'est un immense organisme. Mais évidemment, quand on dit immense, on dit difficile de contrôle. Donc il y a du coulage, il y a beaucoup de gens qui se servent, qui passent à la caisse sans rien dire à personne, évidemment. Alors évidemment, comment avoir une crédibilité à ce niveau-là, c'est très très difficile. La mafia de l'Est règne un petit peu là-derrière. Il y a la Russie, il y a l'Ouzbékistan, il y a le Turkménistan, il y a le Kazakhstan, il y a même la Corée du Sud. Tous ces pays qui dirigent un petit peu la boxe amateur. Et les juges ont bien du mal à échapper à la corruption. Ça s'est vu à plusieurs reprises dans les derniers Jeux Olympiques. Et puis l'Italien Falcinelli, qui avait dirigé l'AIBA par intérim, lorsque Wu, le Coréen, a été viré, eh bien, il soutenait l'adversaire de Rakimov. Et depuis que ce dernier a été élu, eh bien, l'Italien Falcinelli a été privé de toutes ses activités au sein de l'AIBA, parce que, évidemment,
il en savait trop, quoi.
C'est ça, voilà.
Bertrand Dubout, la boxe, quand même, hein, elle a perdu beaucoup de popularité par rapport, je dirais, à autrefois, d'une manière très générale. Il y a une perte de popularité de ce sport. Vous l'avez beaucoup commenté, notamment d'images professionnelles, on en voit moins, on en voit plus.
Oui, mais le problème, c'est parce que la télévision sous son monde nous a complètement abandonnés, ça, il faut aussi le dire. Aujourd'hui, vous ne voyez plus de matchs de boxe de championnat du monde sur les chaînes publiques. À mon époque, c'était possible. On se battait pour avoir des championnats du monde à 4-5 heures du matin, des grands combats. Il y en a encore des grands combats, mais malheureusement, le public ne les voit plus parce qu'ils sont réservés à des chaînes privées, à des chaînes par pay-per-view, par abonnement ou je ne sais pas quoi. Et donc, c'est la catastrophe pour la boxe. En plus de ça, il y a beaucoup trop de fédérations. Il y a une dizaine de fédérations qui se partagent le gâteau. C'est insupportable.
Même plus, hein, j'ai regardé, on parle d'une vingtaine de fédérations. Bon, certaines sont certainement très petites. Vingtaine de fédérations internationales professionnelles. C'est sidérant, on s'y perd. On ne peut plus accorder du crédit à ce sport.
Si, il faut y croire.
Allez-y.
Il faut y croire. Non, je vais dire, franchement, moi, je vais encore m'entraîner. Je vois les gars qui s'entraînent. Il y a deux grands meetings demain à Martigny avec Benoît Hubert, le poids lourd valaisan, et puis le 13 décembre à Genève au Cirque de Noël avec 6 combats professionnels. Il y a des bons combats, il y a des combattants qui s'engagent, qui sont d'un bon niveau, mais malheureusement, on ne les voit plus à l'œuvre. Et c'est ça qui est terrible. Parce que il y a la concurrence des nouveaux sports de combat, le kickboxing, le MMA, le taekwondo et j'en sais rien d'autre. Mais le problème, c'est que la plupart de ces sports ne sont pas forcément au programme des Jeux Olympiques. Alors évidemment, ça crée une concurrence. Et puis, c'est défavorable à la boxe. Parce que la boxe, c'est un sport de tradition. C'est un sport un peu à l'ancienne. Et les jeunes, ils veulent du fun. Ils veulent du sang. Ils veulent des chaos. Ils veulent de la bagarre. Et donc, c'est pour ça que malheureusement, l'évolution n'est pas favorable à la boxe, qui a quand même ses règles très strictes, qui a quand même une certaine tradition. On voit aussi des débordements, il y a parfois des dérives, j'en conviens. Mais disons que moi, je défends quand même le sport que j'ai aimé, qui est un sport olympique. C'est un des plus anciens avec la lutte. Il ne faut pas l'oublier.
Justement, hein, c'est peut-être la conclusion. La crédibilité de la boxe peut être sauvée, déjà par sa tradition, ses règles précises, et aussi par sa seule fédération amateur, à condition peut-être de faire un grand nettoyage de ses institutions. C'est finalement ce que demande le CIO.
Oui, c'est ce que demande le CIO. Et donc, pour conserver la boxe au programme des Jeux Olympiques, il est prêt à confier le tournoi olympique à une autre fédération que l'AIBA. Alors ça, c'est encore un autre problème, parce que cette fédération, elle existe peut-être. C'est une des fédérations professionnelles, la WBA, la plus ancienne, WBC, IBF et WBO. Elles sont quatre à se partager, si vous voulez, un peu la crédibilité de la boxe. Les autres fédérations sont moins importantes, moins concernées, moins crédibles. À l'époque, l'EBU, la Fédération Européenne Professionnelle, où les Suisses sont très influents, est affiliée au Conseil Mondial de la Boxe, WBC. Mais depuis que ces fédérations mondiales ont ouvert des portes et des fenêtres sur l'Europe, le championnat d'Europe, au lieu d'avoir un seul titre, le championnat d'Europe propose 3 titres. Le championnat d'Europe, le vrai championnat d'Europe, le championnat d'Europe pour les pays qui sont dans l'Union européenne uniquement, et le championnat d'Europe pour les pays qui sont hors de l'Union européenne. Ça fait trois titres. Donc on s'y retrouve plus, c'est une catastrophe, quoi.
Voilà, effectivement, Maître Dubout, c'est votre conclusion. C'est compliqué. Merci tout de même pour votre éclairage, pour votre passion pour la boxe. À la prochaine occasion, nous parlerons peut-être de cyclisme, mais pourquoi pas de cyclocross. Au revoir et bonne soirée, si vous êtes encore là d'ici quelques minutes.
Oui, il n'y a pas de problème, vous pouvez compter sur moi.
Cap Sport.
Un Super G samedi et un slalom parallèle dimanche, ce sont les deux épreuves au programme de la Coupe du Monde féminine de ski alpin ce week-end à Saint-Moritz. Le ski reste du ski et la crédibilité de ce sport ne se pose pas. Mais les dirigeants de la FIS, la Fédération Internationale de Ski, ne sont pas des philanthropes pour autant. Money is money, le sport est un spectacle. À ce titre, les épreuves de ski de fond ont par exemple été totalement revisitées, et ceci depuis une bonne dizaine d'années. En ski alpin, les changements ne sont pas vraiment notoires. Mathieu Schaffner, bonsoir.
Bonsoir Marcel.
Vous êtes notre envoyé spécial à Saint-Moritz, où il y aura donc un slalom parallèle dimanche. À votre avis, tout bonnement, là, quel est l'intérêt de proposer un nouveau format de course? C'est le sport-spectacle?
Ouais, c'est clairement le sport-spectacle, Marcel. Effectivement, on veut donner du spectacle au public. On veut peut-être attirer aussi un nouveau public. C'est d'ailleurs ce qui se dit aussi ici dans la station Grisone. On a eu l'occasion d'échanger tout à l'heure avec Stéphane Catin, le chef alpin de Swisski. Et lui, clairement, il le dit, c'est un nouveau produit pour le ski alpin. Il faut en profiter. Ça donne une nouvelle image. Et puis, bien entendu, vous l'avez dit, les finances, c'est aussi intéressant. On peut essayer d'attirer un nouveau public et de donner peut-être envie à de nouveaux nouveaux skieurs aussi de venir sur des disciplines un peu plus fun, un peu plus dans l'air du temps. C'est clairement ça l'envie derrière ce slalom parallèle. Mais c'est quand même une discipline qui plaît pas forcément à tout le monde. On a eu l'occasion d'échanger avec Michel Guizine, l'Obvaldienne, qui elle dit pour moi le ski, ce que j'aime dans le ski, finalement, c'est être toute seule sur une piste et puis me battre contre le chronomètre. J'ai aucune envie de me battre contre d'autres filles. Et donc il y a quand même des voix divergentes au sein du cirque blanc.
Et vous, personnellement, vous êtes convaincu par le slalom parallèle ?
Alors, convaincu, pas encore. On verra dimanche parce qu'il y a quand même encore du scepticisme autour de cette discipline. Elle en est à ses débuts. C'est gentiment sur les bases de ce qu'on a pu voir en City Event, mais on a encore un mode un peu différent pour ce dimanche ici à Saint-Moritz. Et donc, on n'est pas persuadé que tout sera parfait dès ce dimanche. Ça demande encore peut-être quelques adaptations. Mais après, avoir du spectacle comme ça, des duels, on y verra aussi plus clair au fil des manches, voir deux athlètes s'affronter en parallèle, c'est quelque chose qui me paraît être assez intéressant. En tout cas, il faut lui donner sa chance.
Donc à découvrir ou à redécouvrir dimanche avec ce slalom parallèle de Saint-Moritz. Avant cela, bien évidemment, demain, il y a le Super G-Dam avec la Ragout, enfin la Ragout Berami, hein, c'est comme cela qu'elle se nomme désormais. Celle-ci a peut-être une petite revanche à prendre, une confirmation plutôt à porter, parce que pour l'instant, ses résultats ne sont pas excellents ce début de saison.
Ouais, c'est le moins qu'on puisse dire. Un seul top 10 pour elle depuis le début de l'hiver. Des performances vraiment pas forcément à la hauteur de son talent. Alors on sait que la piste de l'Écluse ne lui plaît pas forcément. Elle fait pas forcément non plus du coup l'effort pour essayer de performer sur cette pente canadienne. Mais vous avez certainement lâché l'information qu'il fallait à son propos. La Ragout Berami dorénavant. Et c'est bien cela qui change un peu la donne pour la Tessinoise. On a échangé tout à l'heure avec un collègue tessinois justement qui nous disait mais il faut pas chercher trop loin, c'est là clairement ce qui lui manque en ce début d'hiver, c'est ce qu'elle n'a pas forcément travaillé durant l'été. Elle prend de plus en plus la route pour aller à Udinese et rejoindre son footballeur de mari, et c'est du temps qu'elle ne passe plus forcément à l'entraînement. Alors la motivation est toujours là, le plaisir est toujours là, le talent aussi, mais l'entraînement peut-être un peu moins, et c'est ce qui peut expliquer aussi le début de saison quand même un peu mi-figue mi-raisin de la Ragout. Après, on attend quand même clairement une réaction. Elle se sent bien à Saint-Moritz, même si elle a été blessée juste durant les championnats du monde, ici même en février de l'an dernier. Mais au-delà de ça, elle est quand même à l'aise sur cette piste-là. Elle a signé des victoires en Super G, en descente. Donc, elle peut clairement faire quelque chose dès demain, pour autant que la course ait lieu.
Ah, l'amour, Mathieu. Un petit mot peut-être pour terminer sur Charlotte Chable, qui elle va disputer donc le slalom parallèle de dimanche.
Ça sera pour dimanche, effectivement, pour Charlotte Chable, la Vaudoise qui se remet de pépins physiques à répétition. Alors, au niveau de l'attitude, elle n'a pas du tout changé. Elle a toujours le sourire, la bonne humeur communicative. En plus, les résultats commencent de revenir pour elle. Elle a signé un podium en Coupe d'Europe en début de semaine du côté de la Norvège. Et on sent qu'elle retrouve peu à peu confiance. Elle le dit, il me faut encore réussir à me lâcher désormais sur ces pistes de slalom. Mais ce pourrait être effectivement pour dimanche, parce que ce concept de slalom parallèle lui plaît particulièrement. Donc pourquoi pas voir la Vaudoise avec son plus beau sourire dimanche dans l'air d'arrivée ici à Saint-Moritz.
Mathieu Schaffner, merci beaucoup. Et encore peut-être une dernière recommandation, n'essayez pas de suivre toutes ces skieuses au cas où vous chausseriez vos lattes. Hein. Elles vont beaucoup trop vite pour vous. Voilà, bon séjour à Saint-Moritz. Au revoir.
On va en prendre garde. Merci Marcel.
Cap Sport.
Du vélo des champs et debout, les championnats romains de cyclocross ont lieu samedi, c'est-à-dire demain, à Porrentruy, à l'enceinte du cyclocross des Princes-Évêques, une discipline réservée à une poignée de passionnés qui adorent se défoncer, en toute légitimité d'ailleurs, avec leur vélo sur des terrains souvent gras et boueux, où d'autres n'y mettraient d'ailleurs même pas les pieds. Emilia Barben, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes notre invité, le cyclocross, aussi le VTT d'ailleurs, hein, c'est votre affaire. Vous avez terminé deuxième de la manche de l'Omnium qui s'était tenue il y a deux semaines à Colombier. Vous figurez parmi les candidats au podium romain demain, décidément. Est-ce que vous connaissez déjà les caractéristiques du parcours des Princes-Évêques? Je crois qu'il est très, très attractif.
Oui, c'est un parcours attractif. C'est surtout autour du château de Porrentruy. Donc, il y a une belle vue sur la ville. Et puis, il y a des beaux talus, des escaliers à monter. Donc, oui, c'est un parcours assez sport. Surtout que l'année passée, il y avait la neige. Mais je crois que cette année, il y aura un petit peu de plus seulement.
Voilà, des vraies conditions de cyclocross. Je crois que vous aimez ça.
Oui, j'ai commencé en 2008 au cyclocross. J'ai fait le championnat d'Europe, quelques coupes du monde. Et puis là, ces dernières années, je fais plutôt juste pour garder la forme.
Mais Emilien, qu'est-ce qui vous plaît tant dans cette discipline? Un brin hybride entre le vélo de route, qui n'est ni du vélo de route, ni du VTT.
En fait, on parlait de sport spectacle, c'est aussi un sport spectacle. La météo, elle est souvent assez compliquée. Le terrain, il est aussi assez difficile. Souvent, en Belgique, c'est dans le sable, dans la neige l'hiver. Donc, c'est ça qui me plaît. Et puis aussi, c'est très court, c'est 50 minutes à fond. Et c'est d'autres sensations que le VTT ou la route.
Emilien, tout à l'heure, nous avions Bertrand Dubout qui nous a parlé de boxe. Je crois qu'il est toujours au téléphone parce que lui aussi, hein, c'est un amoureux de vélo, pas seulement de boxe, et également de cyclocross. Bertrand, vous nous entendez toujours?
Oui, pas de problème.
Alors, qu'est-ce que vous pourriez dire sur le cyclocross? C'est une discipline hybride, ni du vélo de route, ni du VTT, ou c'est une réelle discipline en soi?
Ah, je pense que c'est quand même une réelle discipline, même si elle peut paraître un peu hybride. Le problème du cyclocross, c'est qu'il souffre aujourd'hui de la concurrence du VTT qui a été inscrit au programme des Jeux Olympiques, alors que le cyclocross, lui, lutte toujours. Mais Jeux Olympiques d'été ou Jeux Olympiques d'hiver, c'est la grande question, on n'a jamais très su. Les Suisses ont perdu le contact, jusqu'à il y a quelques années, ils étaient encore bien dans le coup, à l'époque de Pascal Richard, de Albert Zweifel, de Bert Brault et compagnie, on avait des titres, des médailles, et puis tout d'un coup, ça s'est effondré. Je ne sais pas si c'est parce qu'on n'a plus de sportifs, de coureurs qui sont suffisamment, qui ont suffisamment de classe pour évoluer au niveau mondial, ou si c'est parce que la discipline a évolué. En Belgique, en Hollande, il y a 30, 40, 50 000 spectateurs par week-end pour voir des épreuves de cyclocross, mais on court un peu dans le sable. Les Suisses ont perdu le pied là, dans cette matière. Donc, il y a une grande remise en question qui s'impose. On a encore deux ou trois bons éléments qui arrivent à garder plus ou moins encore le contact avec l'élite mondiale, notamment l'ancien junior vaudois Rouillet, Loris Rouillet, qui est champion d'Europe. Mais par contre, quand on monte dans les catégories, c'est plus difficile.
Emilia Barbonne, cette tradition du cyclocross, c'est vrai, elle s'est perdue en Suisse, mais je crois qu'il y a encore des cyclocross très attractifs du côté de la Suisse alémanique, en fait des cyclocross de haut niveau.
Oui, le terreau en Suisse, le cyclocross, il est autour de Zurich. Maintenant, c'est clair que dans la région fribourgeoise, il y a des entraînements réguliers. L'Omnium Romand, tous les jeudis soirs, ils se rencontrent. Dans la nuit, ils font des entraînements, même s'il pleut ou il neige. Et puis oui, c'est vrai qu'actuellement, l'espoir suisse s'est rouillé. Il est en première année espoir, il fait déjà des très bons résultats. Et puis oui, aussi, j'étais en 2010, j'ai participé à quelques courses en Belgique. C'est clair que c'est presque un sport national, on est dans le sable, il y a des milliers de spectateurs, c'est une ambiance qui est vraiment folle. Mais en Suisse, ça revient gentiment, on est sur la bonne voie. Il y aura en 2020 les championnats du monde à Dubendorf. Cette année, il y avait la Coupe du monde à Berne, donc on est vraiment dans la bonne direction. Et puis j'espère que ça va continuer comme ça.
Mais est-ce que cela ne reste pas quand même une affaire de passionné? Parce qu'aller s'entraîner de nuit dans le froid, dans la boue, sur la neige, il faut vraiment aimer.
Oui, il faut aimer, mais bon, pour faire du vélo en général, il faut aimer parce que c'est un sport qui est assez ingrat, mais qui apporte aussi beaucoup d'émotions. Et puis en Belgique, c'est vraiment un sport où il y a des professionnels. En Suisse, il y a quelques professionnels, mais c'est clair qu'on ne gagne pas trop d'argent dans ce domaine-là.
Bertrand Dubout, le cyclocross, c'est si ingrat que cela?
Oui, j'aurais juste rajouté une chose. Le cyclocross souffre de l'absence de la télévision. Une fois encore, on en arrive toujours à ça. Tant que la télévision ne soutient pas un sport, ce sport, s'il n'est pas olympique, il est condamné à mort. C'est exactement ce qui se passe avec le cyclocross. La télévision suisse romande en particulier, elle va plus jamais filmer une course, que ce soit dans Chablais ou en Ajoie chez vous, à Porrentruy ou à Delémont, dans le Jura. Par contre, en Suisse allemande, on a peut-être encore un petit peu des reflets, mais il n'y a plus d'épreuves en direct. En Hollande, en Belgique, c'est tous les week-ends en direct. Alors évidemment, il y a des sponsors, ça attire le monde, ça crée de l'émulation, ça peut permettre de faire des camps d'entraînement, il y a plus d'argent, etc. Et donc, on en revient toujours à ça. La télévision publique, si elle n'arrive pas à jouer son rôle, parce qu'aujourd'hui, en Suisse romande, on n'a que du football, du hockey sur glace, du tennis et du hockey,
du tennis, c'est déjà pas mal.
Et puis du ski, parce que maintenant c'est la saison, mais on ne voit jamais de cyclocross.
Bertrand Dubout, on espère que votre message sera entendu. C'est vrai, hein, vous avez commenté des grandes courses, le titre de champion du monde, notamment de Pascal Richard, par exemple. Mais le cyclocross en dilettante, j'ai envie de dire que c'est pas vraiment cela. On monte sur un VTT, mais pas sur un vélo de cyclocross.
Ah non, ça c'est pas totalement vrai. Les ambiances dans les courses cyclocross, elles sont vraiment bonnes. Il n'y a qu'à voir les populaires, les passionnés. Je pense même que l'ambiance pourrait être meilleure que dans le VTT, il y a un petit peu moins de concurrence. Donc non, il y a des passionnés de cyclocross aussi qui vont juste pour se faire plaisir, il n'y a pas que des compétiteurs.
Mais c'est dur le cyclocross, une heure d'effort, on m'avait dit Emilien, le vélo de toute façon c'est dur.
Oui, le vélo, c'est dur, mais c'est tellement beau.
Bertrand, c'est aussi ça, le vélo, c'est dur, c'est tellement beau.
C'est intensif, le cyclocross. C'est un effort qui est terrible. Sur une heure, c'est intensif. Les conditions sont quand même parfois extrêmes. Ça coûte beaucoup de force et d'énergie. C'est-à-dire, il faut avoir le cœur bien accroché. Mais ce que je veux dire, c'est que depuis que j'ai quitté la télévision, j'ai l'impression qu'il n'y a plus de boxe, il n'y a plus de cyclocross. Et encore un petit peu moins de vélo, parce qu'à part le Tour de Romandie, on ne voit pas grand-chose. Hein.
Alors, ça, c'est un autre débat, Bertrand Dubout. Le cyclocross, pour vous, Emilia Barben, si on parle plus précisément de vous, ça vous sert aussi de préparation en vue d'une saison de VTT?
Oui, c'est pour un petit peu meubler le mois de novembre et de décembre, et puis c'est pour garder la forme. Et bien sûr, les objectifs pour moi, c'est en VTT au niveau international. Là, maintenant, je fais du marathon, puis moins de cross-country. Et puis, ben, les objectifs, c'est dès le mois de juin, les gros marathons en Suisse, avec les championnats du monde qui sont souvent début septembre. Cette année, j'ai fait un top 60 en Italie, dans les Dolomites, pour monter des pistes de ski à l'envers pendant 5 heures de temps. Et puis là, ben, l'année prochaine, ça sera en Suisse, les championnats du monde dans le Valais. Donc ça, c'est un grand objectif pour moi.
Il y a un gros décalage quand même entre une épreuve de cyclocross, c'est intensif, comme l'a dit Bertrand Dubout, une heure d'effort, et un marathon VTT, là c'est 4-5 heures d'effort, ce n'est pas véritablement, je ne veux pas dire le même sport, mais pas le même effort en tout cas.
C'est pas le même effort, mais après on s'adapte, moi je viens du cross-country, donc c'était c'est 1h30 d'effort, donc que je fasse 1h, 1h30, il y a très peu de différence, mais peut-être la plus grande c'est qu'en VTT, on peut se reposer dans la descente, alors qu'en cyclocross on ne se repose jamais, c'est là la difficulté, c'est toujours à fond, toujours d'Irlande, on ne peut pas perdre de temps, on ne peut pas gérer, et ça c'est une grande différence.
Voilà, il faut quand même être fait pour et préparé. Vous êtes préparé pour ce genre d'effort?
Je suis préparé pour demain, oui, bien entendu. Mais maintenant à mon niveau, parce que je travaille à temps partiel, donc je ne peux plus seulement m'entraîner. Mais oui, je serai à mon niveau demain, et puis j'espère faire une belle performance autour de Porrentruy.
Avec une place sur le podium, par exemple?
Oui, j'espère bien.
Vous avez fait deuxième à Colombier. Est-ce qu'il y a beaucoup de spécialistes de cyclocross, de réels spécialistes de cyclocross en Suisse romande? On a parlé de jeune, c'est Rouillet, j'ai oublié son nom, je crois. C'est Rouillet, du jeune Rouillet. Mais pour le reste, est-ce qu'il y a beaucoup encore de jeunes bons spécialistes de cyclocross?
Rouillet, c'est l'espoir suisse. Après, oui, en Romandie, il y a quelques espoirs. Et puis oui, il y a deux semaines, il y avait le Zeta Cross, c'est le Zeta Cycling Club qui a organisé à Mieux. Et puis, ben, c'est le seul événement actuellement dans le canton du Châtel-Neuf du cyclocross. Donc j'espère que peut-être l'année prochaine, on aura peut-être d'autres organisateurs.
Emilia Barben, merci beaucoup et bonne chance pour demain, hein, pour ce cyclocross des Princes-Évêques. C'est à partir de 12h30 au cœur et dans les environs du bourg de Porrentruy. Merci aussi à Bertrand Dubourg. On espère que votre message sera entendu. Plus de boxe, vous avez dit, plus de cyclisme sur la télévision publique. Voilà. Et bonne fin de journée, hein, Bertrand.
Merci Marcel, à bientôt.
Au revoir.